Consommer local vous intéresse ? Ce podcast de Sud-Ouest est accompagné par le mouvement hashtag Bordeaux local, une campagne qui met en avant les acteurs économiques girondins, les établissements, les hommes et femmes qui jouent la carte des produits locaux et des vins de Bordeaux. Aujourd'hui, plus que jamais, l'ensemble des acteurs locaux doivent se soutenir et participer à une économie plus solidaire, responsable et engagée. C'est pourquoi l'interprofession des vins de Bordeaux, l'UMI Gironde et l'Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole ont conçu ce mouvement, avec l'adhésion de nombreuses personnalités. Si vous aussi vous êtes hashtag Bordeaux local, rejoignez-nous en découvrant les établissements qui mettent en avant les produits locaux, en vous inscrivant sur bordeauxlocal.fr et en partageant le hashtag Bordeaux local.
Bonjour, je suis Mathieu Hervé. Vous écoutez Les 4 saisons du vin, saison 6. Les 4 saisons du vin est un podcast de la rédaction de Sud-Ouest. Merci d'être là. Bonne écoute.
On avait beaucoup aimé échanger avec lui en saison 5. On l'a réinvité pour la saison 6 des 4 saisons du vin. Jean-Marie Cardeba, professeur d'économie à l'Université de Bordeaux et à l'INSEC, il nous avait exposé ses pistes provocantes pour sortir le vin français de la crise. Eh bien aujourd'hui, c'est un droit de suite, comme on dit. On va parler de l'actualité du vignoble de Bordeaux, des prix, d'arrachage de marché, alors que le contexte a encore évolué. Et Jean-Marie Cardeba va nous dire pourquoi il pense que l'arrachage est une arme très dangereuse. Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez un épisode de la saison 6 des 4 saisons du vin. Les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin, qui revient sur ses faits majeurs et qui tente d'en décrypter les enjeux. Je suis avec César Compadre, responsable de la rubrique vin à Sud-Ouest. Bonjour César.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Et nous recevons aujourd'hui Jean-Marie Cardeba. Bonjour Jean-Marie Cardeba.
Bonjour.
Alors je l'ai dit, vous enseignez à l'Université de Bordeaux, à l'INSEC, École de Commerce et de Management, l'économie du vin. Posons ceci ici, il y a plein de courants, de chapelles, de familles chez les économistes. On cite souvent le grand clivage entre les orthodoxes et les hétérodoxes. Alors je ne sais pas de quelle école vous êtes, mais en tout cas, vous avez pris une position très hétérodoxe dans l'ambiance générale à Bordeaux, puisque vous pensez que le plan d'arrachage du vignoble qui est en cours est une erreur. Vous allez nous dire pourquoi. Mais avant toute chose, César, un point de situation en ce mois de mars.
Situation Bordeaux, 110 000 hectares, plan d'arrachage mis en route depuis quelques semaines, arrachage de 8 000 hectares, ce qui est tout à fait considérable. 8 000 hectares aidés dans le cadre d'un plan financé par essentiellement Paris et le CIVB. À ces 8 000 hectares, on pourra ajouter quelques milliers d'hectares qui seront vraisemblablement arrachés par des viticulteurs de manière tout à fait volontaire et sans aide. Donc on s'attend à une hémorragie très importante sur le vignoble bordelais. Et au-delà du Bordelais, même si le Bordelais a été pionnier sur ce sujet, nombre d'autres régions commencent à s'intéresser à la question de l'arrachage primé. Et même au plus haut niveau de l'État, le ministre de l'Agriculture l'a énoncé il y a quelque temps, le chiffre de 100 000 hectares à arracher en France est en train de circuler. 100 000 hectares sur 750 000, on voit bien l'hémorragie qui se profile.
Alors dans ce contexte, on se tourne vers vous, Jean-Marie Cardeba. Pourquoi l'arrachage serait-il une erreur ?
Alors première chose, je n'ai jamais dit que l'arrachage du vignoble serait une erreur. Je dis simplement qu'il faut réfléchir cette solution en prenant en compte un diagnostic qui soit clair et complet de la crise viticole actuelle. L'arrachage ne répond qu'à une partie de cette crise, une partie seulement, c'est une crise de l'amont, alors que le problème est un problème finalement de vente, beaucoup plus que de production. Et en cela, en s'attaquant à l'amont, à la production, j'ai peur qu'on oublie le principal problème qui est celui de la sous-vente. Et c'est vrai que j'aime bien manier cette sémantique-là en disant « on ne surproduit pas, on sous-vend ». Alors, certains de vos confrères m'ont dit « vous jouez sur les mots ». Oui et non, je crois que vraiment la sémantique est importante parce que derrière elle, il y a la philosophie de l'action. Si je dis que le problème est sur l'amont, je vais essayer de trouver des solutions sur l'amont, sur la production. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Or moi, je dis le problème est sur l'aval, on ne vend pas suffisamment et on n'a pas une offre de produits qui soit adaptée au goût aux préférences des consommateurs actuellement. Et l'aide que l'on porte aux viticulteurs et qu'il faut leur porter devrait être surtout mise sur l'aval, c'est-à-dire le marketing, la commercialisation, le packaging, un discours qui soit renouvelé, des produits qui soient renouvelés, des gammes qui soient élargies. Donc voilà ce que je dis, ce n'est pas un problème au niveau de l'arrachage en tant que tel, qui peut être une solution, parfois une porte de sortie sociale qu'on ne peut pas éviter pour certains viticulteurs. Et ça, je le comprends parfaitement.
Il y a un sentiment d'urgence, quand même.
Il y a un sentiment d'urgence, effectivement.
C'est compliqué de s'en passer, en fait.
Oui, pour certains, oui. C'est certainement compliqué de s'en passer aujourd'hui parce qu'on a tardé aussi à prendre des mesures. Le changement de préférence des consommateurs, le fait que l'on consomme moins de vin rouge, qui est quand même le vin phare aujourd'hui en production à Bordeaux. César, vous savez bien, je crois. Hein. Ça fait longtemps qu'on le dit, non? Ça fait bien 10 ans qu'on le dit.
Même si Mathieu et moi, on fait des efforts pour que les résultats soient meilleurs.
Exactement. Mais
ça ne suffit pas.
Ça ne suffit pas.
Mais il y a une inertie. Il y a une inertie dans une filière qui est une filière quand même largement agricole et qui n'est pas une filière, effectivement, qui est habituée aux fluctuations de marché et à s'adapter en permanence.
Donc, quand l'avez-vous vu arriver, cette crise, finalement, cette sous-consommation? On aurait dû s'en occuper il y a 5 ans, il y a 10 ans
Alors, il y a 10 ans, on a eu une première alerte, si vous voulez, il y a même plus de 10 ans avec la crise des subprimes, où on a découvert, avec la crise mondiale économique que l'on a subie en 2009, où l'on a découvert quand même que le vin était très sensible aux élasticités revenus du consommateur. Donc, lorsque le revenu des consommateurs a tendance à baisser, il y a un effet plus que proportionnel sur la demande de vin. Donc ça, déjà, ça a été un premier warning, je dirais, qu'il aurait fallu prendre en compte.
Parce que c'est un produit non nécessaire, en fait.
Exactement. Exactement. Et ce qui nous revient dans la figure aujourd'hui, force 10 avec en plus un effet inflationniste, c'est-à-dire qu'il y a un problème d'élasticité prix en plus de l'élasticité revenu. Mais il y a une douzaine d'années, on aurait dû se rendre compte qu'on était très sensible à la conjoncture macroéconomique, d'une part, et d'autre part, on le sait à Bordeaux, on est très sensible à la conjoncture en Chine. Or, cette conjoncture en Chine, on savait très bien que la Chine était en sur-régime depuis déjà un moment, et dès 2017, les chiffres de consommation en Chine commencent à baisser. Et pas qu'un peu. Aujourd'hui, c'est un effondrement de la consommation sur les 5-6 dernières années que l'on a connues en Chine.
La Chine était un peu l'arbre qui cachait la forêt, finalement.
Exactement, d'une certaine façon. Parce que les chiffres de consommation en France, c'est pareil. Depuis les années 60, on sait qu'ils chutent. Donc, ce n'est pas une surprise. Dans tous les marchés matures, la consommation a plutôt tendance à baisser. Et il y a deux locomotives, essentiellement. C'est d'un côté les États-Unis, de l'autre côté la Chine. Donc là, aujourd'hui, lorsque les États-Unis sont frappés conjoncturellement, mais je dis bien conjoncturellement par une crise qui est liée à la crise des subprimes et ses conséquences, le choc inflationniste, etc., ben on souffre des deux côtés. La Chine s'est effondrée avant le Covid, le marché américain, tous, on va dire, s'enrhume avec le Covid et la crise inflationniste. Et là, effectivement, on est dans une situation de crise profonde. Ce que je voudrais bien expliquer ici aujourd'hui, c'est quand même qu'il y a une dimension très conjoncturelle à cette crise. Donc, l'arrachage répond à une dimension structurelle de l'amont. Or, la crise, elle est aussi conjoncturelle et structurelle sur l'aval, c'est-à-dire l'adaptation aux préférences des consommateurs. Donc, en disant « on va arracher », on répond au mieux, pour moi, à un quart des causes de cette crise. Voilà, c'est en cela que je dis, l'arrachage, oui, il y a une urgence, vous l'avez dit César, cette urgence, elle est sociale, et l'arrachage a cette utilité-là. C'est pour ça que je ne dis pas que c'est une erreur. En revanche, c'est certainement pas une solution à la crise viticole que l'on connaît aujourd'hui.
Parce que ça veut dire que la bonne nouvelle dans ce que vous énoncez, quand vous parlez de déconsommation plutôt que de baisse de consommation, ça veut dire qu'il y a un potentiel de consommation qui est sous-utilisé. Ça peut être la bonne nouvelle pour les viticulteurs et les négociants bordelais.
Oui. Oui, si vous regardez certains segments de marché, vous constaterez que l'OIV a sorti un rapport dernièrement sur la consommation par couleur et par type de vin. Vous voyez que la déconsommation dont on parle beaucoup, elle touche à la fois le vin rouge de façon générale, mais aussi certains réseaux de distribution. En France, c'est très marqué dans la grande distribution. En revanche, on n'a pas de déconsommation chez les cavistes notamment. au contraire. Donc, il faut dresser un constat qui soit un constat vraiment complet. Je crois qu'on a un gros problème de diagnostic sur cette crise. Elle dépend des segments aussi. Elle dépend des segments de gamme, bien sûr. Elle dépend des canaux de distribution. C'est une crise de la grande distribution que l'on a en filigrane derrière cette crise viticole en France.
La grande distribution a perdu 2 millions d'hectos en 6 ans. Voilà, j'ai les chiffres sous les yeux. On est passé de 11,7 millions d'hectos commercialisés en 2017 à 9,6 en 2023. C'est des baisses, c'est un écroulement, quoi, pratiquement.
C'est un écroulement. Mais on pilote beaucoup au niveau de la filière, au niveau du ministère de l'Agriculture, avec les chiffres, finalement, qui sont issus de ces grandes compagnies que l'on connaît comme Kantar, IRI, etc., qui donnent des chiffres sur la grande distribution.
Et malheureusement, on a peu de chiffres sur les autres secteurs. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, la filière viticole qui manie des milliards d'euros est très pauvre en statistiques. On pilote un peu à vue.
Exactement. Alors, attention, les experts qui pilotent dans les interprofessions savent tout ça, mais ils font avec les statistiques qu'ils ont.
Insuffisantes.
Et qui sont insuffisantes. Je crois que tout le monde en est conscient. Aujourd'hui, on ne peut pas uniquement piloter avec les statistiques de la grande distribution parce qu'on en arrive à envoyer des messages qui sont absolument terrifiants, effectivement, sur l'effondrement de la consommation. Mais on ne regarde pas ce que génère le no-tourisme, la vente directe. On ne regarde pas ce qui se passe dans les autres canaux de distribution. CHR, c'est mal documenté. Réseau des cavistes, c'est mal documenté. Donc, il nous manque toute une partie de l'histoire. Et vous ne pouvez pas, si vous ne posez pas un bon diagnostic et que vous n'avez pas les bons outils de gestion, c'est-à-dire les bonnes statistiques, vous ne pouvez pas piloter de façon extrêmement pertinente une filière. Et c'est ce pourquoi je me bats. Donc lorsque vous me dites ça, César, je ne peux qu'abonder dans votre sens et ça me fait plaisir de l'entendre.
D'ailleurs, on peut souligner que ce week-end, c'est le salon des vignerons indépendants et quand on écoute les responsables et les professionnels de la famille des vignerons indépendants, on voit qu'il y a un marché, on voit qu'il y a des clients, on voit qu'il y a un certain optimisme avec ce type de distribution. Certes, il est chronophage, il faut aller voir des clients, c'est un peu de l'épicerie, mais on se rend compte quand même qu'il y a des clients pour des vins de qualité.
Tout à fait. Et si j'étais vraiment provocateur, je vous dirais qu'il y a des clients pour des vins de qualité ou pas, ça dépendra beaucoup aussi de la façon dont vous les vendez dans le marketing. Regardez sur d'autres secteurs, il y a plein de choses de qualité basse qui se vendent parce que c'est un marketing. Et le low cost est en soi finalement un segment extrêmement intéressant. Je prends les compagnies aériennes, si vous voulez. Vous n'êtes pas forcément très très bien traité chez toutes les compagnies aériennes et c'est elles qui sont leaders de marché. Donc je ne parlerai pas que de vins de qualité. Je prends tous les vins.
Parlons de low cost parce que l'occasion est bonne. Là, il y a une publicité qui circule de Lidl qui propose une bouteille de Bordeaux à, tenez-vous bien, 1,89€. On est clairement dans le low cost. Mais est-ce qu'on est dans une dynamique commerciale, professionnelle, marketing qui est tenable, cohérente ? La réponse est dans la question.
La réponse est dans la question, bien sûr. Il faudrait regarder quand même l'ensemble des coûts de revient qu'il y a derrière cette bouteille à 1,89€. Et s'il n'y a pas à un moment donné quelqu'un qui perd vraiment de l'argent, qui vend à perte, et je pense bien sûr aux producteurs. Donc ça, c'est un premier problème. Mais peut-être qu'il n'a pas franchement eu le choix, peut-être qu'il fallait sortir du vin des cuves, etc. Donc c'est des choses que l'on peut comprendre. En revanche, l'image qui est envoyée au marché, l'image qui est envoyée aux consommateurs, clairement dégrade l'appellation Bordeaux. Et ça, c'est franchement dommage.
Quand on s'appelle Bordeaux, d'après vous, à partir de quel prix plancher il faudrait trouver une bouteille de Bordeaux ? Est-ce qu'une bouteille de Bordeaux à 3€, c'est bon pour Bordeaux ? À 5€, c'est bon pour Bordeaux ? À 7€, Bordeaux, c'est quand même un nom, c'est une notoriété, c'est une réputation mondiale. En dessous de quel prix un vin ne peut plus être du Bordeaux ?
J'ai pas de réponse à ça. Je vous le dis franchement, j'ai pas de réponse à ça. Parce que là, finalement, la réponse, si vous me forciez à vous la donner, elle serait assez complexe dans la mesure où ça dépend à qui on s'adresse. Si vous voulez conquérir certains marchés, peut-être qu'il faut être agressif en prix, mais il faut très bien segmenter et cloisonner les marchés à ce moment-là. Il ne faut pas que ceux qui sont habitués et qui ont été habitués dans le passé à un Bordeaux qui soit un grand vin et que le prix soit nettement au-dessus de celui des concurrents qui commencent peut-être à 6-7 euros. Et il ne faut pas que tout à coup, ceux-là, on leur propose des Bordeaux à 1,89€, effectivement.
Je reformule dans ce cas-là, Jean-Marie Cardeba. Prix plancher, ok, mais est-ce qu'il faudrait maintenant des indicateurs de coûts de production beaucoup plus clairs, qui soient publics, qui soient tenus par l'interprofession ou par un autre organisme, pour sortir finalement toute la région d'une situation qui est quand même très douloureuse aujourd'hui?
Moi, je suis un économiste orthodoxe, justement. Je suis un économiste orthodoxe, donc j'aime les solutions de marché. Je n'aime pas les solutions très régulées, d'accord? Ça, c'est pour le background, si vous voulez, justement, en termes d'école de pensée. Néanmoins, il y a un sérieux souci sur les coûts de production, effectivement, et à un moment donné, des producteurs qui peuvent vendre à perte. Alors, comment résoudre ça? Je crois que il y a plusieurs façons de répondre à la question. Ne rien réguler, laisser faire les forces concurrentielles qui font que ceux qui vendent à perte finiront par disparaître du marché.
Manifestement, c'est ce qui se passe à Bordeaux ces derniers temps.
C'est la force du marché et effectivement, c'est ce qui se passe. Il y a un mouvement de concentration à Bordeaux que l'on connaît depuis longtemps et qui peut être souhaitable, que les opérateurs les plus productifs, finalement, reprennent les terres parce qu'eux sont capables d'avoir des coûts de production relativement limités. Mais si vous regardez un Bordeaux générique, effectivement, vous aurez toute une palette de coûts de production en fonction du type d'exploitation que vous avez. Celui qui gère 200, 250 hectares, qui est très mécanisé, etc., n'aura pas du tout les mêmes coûts de production que celui qui gère 6 hectares et qui doit faire beaucoup de travail lui-même, etc., qui va avoir des difficultés pour trouver de la main-d'œuvre, du matériel. Bon, vous m'avez compris. Donc, on a une hétérogénéité dans les coûts de production. C'est pour ça que fixer un prix de revient qui serait un petit peu le prix de revient officiel du Bordeaux aujourd'hui, ça me paraît compliqué. Et ça me paraît doublement compliqué quand on sait qu'il y a environ 5500 producteurs, que chacun a sa marque à l'intérieur de la marque Bordeaux, et chacun peut avoir aussi sa stratégie de prix. Et du coup, si on met un espèce de prix plancher, je dirais, ça veut dire que tous ceux qui sont capables de vendre moins cher vont vendre à ce prix plancher, et on leur donne une rente, si vous voulez, une rente de situation. Alors, quelque part, tant mieux pour eux. Ils peuvent la réutiliser pour investir et continuer à s'améliorer, etc. Et puis, il y a tous ceux qui sont au-dessus et qui vont dire « Mais non, ça ne me suffit pas » et qui vont de toute façon disparaître. Donc, ce prix plancher ne me paraît pas régler, finalement, énormément de problèmes, si vous voulez, par rapport... Ou alors, on le met extrêmement haut pour que personne ne râle par rapport à ce prix plancher, c'est-à-dire on le fixe. C'est le principe du plus petit dénominateur commun. On le fixe sur le prix le plus élevé, c'est-à-dire ce qu'on va appeler le coût marginal en économie le plus élevé, c'est-à-dire celui du dernier producteur qui a le coût de revient le plus élevé. Auquel cas, vous créez un effet de rente extrêmement important et vous augmentez le prix sur le marché pour le consommateur.
Et les négociants n'achèteront pas, peut-être.
Et les négociants achèteront s'ils sont capables de le vendre derrière, s'ils voient qu'il y a un marché. Il est là, le problème. Je veux dire, le négociant, lui, c'est son métier d'acheter du vin. Il refuse pas d'acheter pour le... Enfin, c'est son business. Ça veut dire qu'il refuse de faire son business et il se condamne lui-même. Donc, c'est vraiment pas par plaisir que le négociant refuse d'acheter. Bien au contraire. Mais s'il achète à un prix élevé, il faudra qu'il vende à un prix élevé. Et vous allez vous retrouver avec des vins de Bordeaux qui risquent assez soudainement de se retrouver nettement au-dessus de leurs concurrents habituels, des Côtes-du-Rhône, des vins étrangers, etc., etc. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le consommateur va déporter sa demande vers d'autres appellations ou va réduire sa consommation encore plus, tout simplement. Le vin est très sensible aux effets de prix et aux effets de substitution, du coup, entre les différentes appellations. Donc, si vous vendez moins, au final, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le producteur lui-même? Eh bien non. Non, c'est pas une bonne nouvelle parce que le consommateur réduit sa demande, le producteur va avoir encore plus de mal à vendre son vin. Alors OK, il vend plus cher. Mais tout dépend ensuite de ce fameux produit, prix unitaire de vente, volume de vente. Si je vends 10% de plus en prix unitaire mais que mes volumes s'effondrent 30%, vous voyez bien que vous perdez de l'argent à la fin. Donc il faut manier le prix plancher avec là aussi énormément d'attention et avec un diagnostic qui soit vraiment précis sur la base statistique. Pour tout vous dire, je suis en train de travailler avec des collègues justement sur le calcul de ces élasticités prix et de ce qu'on appelle en économie le surplus. Combien perdrait le producteur suivant des scénarios de prix plancher et en fonction de ces fameuses élasticités prix et revenus du consommateur. Donc j'espère sortir une étude bientôt là-dessus.
Ça va être difficile à mettre en place, en fait, concrètement. C'est ce que vous êtes en train de nous dire, le prix plancher.
Ça va être extrêmement difficile. Je trouve que les autorités politiques...
On en restera aux valeurs du marché, quoi, l'offre et la demande.
Écoutez, quand vous avez un produit aussi hétérogène en plus, moi je veux bien qu'on mette des prix planchers sur le lait en disant, voilà, on va coter 1-2 niveaux de qualité pour le lait, à la limite. Pour le vin, vous avez autant de niveaux de qualité que vous avez de marques, finalement. Donc ça devient extrêmement compliqué. Je trouve qu'on a manié avec beaucoup de légèreté ces temps-ci, du côté des politiques, la notion de prix plancher. Vraiment avec beaucoup de légèreté. Je dis pas, c'est comme l'arrachage, je dis pas qu'il faut blâmer l'idée. Je dis simplement que, à un moment donné, il faut évaluer les idées avant de les balancer dans le débat public, quand même. Et il faut faire ses études économiques sérieuses.
Alors, on reste sur les mécanismes du marché du vin. Autre question à l'économiste orthodoxe, c'est les prix du vin en vrac, qui étaient jadis publiés, publics, et qui ont disparu, entre guillemets, du domaine public. Est-ce que c'est perturbant ou pas pour les acteurs du marché ?
Bien sûr, c'est perturbant, même si ça a été fait pour des questions que je comprends parfaitement. C'est-à-dire qu'on a eu peur de perturber encore plus le marché en publiant l'information, finalement. En disant, là, on envoie des signaux qui sont très mauvais parce que le prix du tonneau descend tellement bas, notamment dans certaines transactions, qu'il vaut mieux qu'on ne le sache pas, parce que ça déstabiliserait le marché. Et ça, je l'entends. Et c'était peut-être, encore une fois, quelque chose de très sage à court terme. Après, sur le plus long terme, un marché où vous manquez d'informations est un marché en économie qui n'est pas efficient, tout simplement, et sur lequel les acteurs ne peuvent pas prendre de bonnes décisions. Donc, à long terme, c'est quelque chose qu'il faut impérativement éviter de ne pas avoir de cotation, clairement. Mais j'en comprends tout à fait les raisons à court terme, mais c'était ça, vous savez, en bourse, on fait exactement la même chose. Quand un prix a tendance à s'effondrer, on le sort de la cotation, on suspend la cotation. Donc c'est quelque chose d'assez naturel qui a été fait, c'est quelque chose qui se fait aussi sur les marchés financiers. Donc je ne suis pas du tout surpris par cette décision, je la trouve plutôt sage, mais il ne faut surtout pas la pérenniser.
Effet boomerang aujourd'hui, certes les prix ne sont pas communiqués, mais les viticulteurs s'en chargent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est demandé par... des associations, des syndicats, il est demandé à leurs adhérents, tel négociant vous propose un tel prix au tonneau, si vous le jugez bas, dites-le et on ira le voir. Voilà, et on fera, mettra un petit peu le feu, on fera quelques opérations pour alerter les pouvoirs publics. Donc finalement, si le prix ne sort pas d'une manière, il sort d'une autre.
Et je préfère les solutions sur des marchés organisés avec un prix public plus transparent.
Plutôt que d'aller amener des souches à brûler devant les centres d'embouteillage des négociants.
Tout à fait.
On en est heureux parce que je rappelle que ces cours étaient diffusés dans Sud-Ouest.
Le mardi,
merci. Et que du jour au lendemain, on nous a dit de ne plus les publier. Ce qu'on a regretté.
Il ne nous était plus communiqué,
ni aux professionnels d'ailleurs.
Est-ce que, Jean-Marie Cardeba, vous avez de nouvelles pistes provocantes pour sortir le marché du vin de la crise ?
Non, j'ai pas de pistes provocantes. Ce que je vais dire est, je pense, quelque chose de bon sens, c'est-à-dire que le constat que l'on peut faire sur cette crise, je l'ai dit, et ça c'est plutôt un message optimiste, cette crise elle est en partie de nature conjoncturelle. Donc il faut aussi garder un petit message d'espoir en disant l'inflation est en train de se tasser, la reprise économique n'est pas franchement rendez-vous, mais on peut l'espérer pour la fin de l'année 2024-2025. Les mêmes mécanismes qui ont fait que l'on a moins consommé, c'est-à-dire hausse des prix, baisse des revenus réels, vont faire que, si les revenus augmentent et que les prix baissent, ou en tout cas qu'ils arrêtent d'augmenter, on retrouve de la consommation. Donc la dimension conjoncturelle pourrait s'améliorer. Ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a cette dimension structurelle qui tient essentiellement à un changement des préférences. On le voit pour tous les alcools. Vous avez vu la situation de cognac aujourd'hui, notamment sur le marché américain.
Qui
s'est retourné très, très vite. Et l'alcool a mauvaise presse. C'est pas que le vin, c'est l'alcool en général qui a mauvaise presse. quel que soit finalement son vecteur, que ce soit la bière, que ce soit un spiritueux ou que ce soit du vin. Ça, c'est un message qui est en train vraiment d'être martelé, que l'on sentait venir. Pour moi, le point de bascule, là aussi, est en 2017. C'est ce fameux article dont vous vous souvenez peut-être dans The Lancet, vraiment la grande revue médicale mondialement connue chez la recherche, dans la recherche médicale, chez les chercheurs, pardon, qui dit « l'alcool tue dès la première goutte et de 27 façons différentes ». C'est un article qui a été remis en cause. C'est un article dont d'autres chercheurs ont prouvé que ce n'était pas vrai. Ça, on n'en a jamais entendu parler. Par contre, ça a fait la une de tous les journaux. Et l'OMS, à partir de là, l'Organisation Mondiale de la Santé, a durci considérablement son message en disant, en off, et je le sais, j'ai assisté à plusieurs conférences de ce type, on n'a pas la preuve évidente que l'alcool tue dès la première goutte. Par contre, il faut qu'on ait un message qui soit un message clair. Dire... un ou deux verres, ça peut aller, au-delà, il faut faire attention, c'est un message qui n'est pas audible. Donc maintenant, on dit l'alcool tue, point. Et ce message, il est en train vraiment d'infuser dans la population, notamment chez les jeunes générations, et on voit bien qu'il y a une baisse assez brutale aujourd'hui hein, de la demande d'alcool, quelle qu'elle soit. Et ça, c'est structurel. Ça, je pense que c'est structurel. Je pense qu'aussi, c'est lié à des facteurs sociologiques de divers natures, à des facteurs religieux qui pèsent de plus en plus aussi dans la démographie française, même si on n'a pas le droit de faire de la démographie de nature religieuse en France. On n'a pas le droit de publier ce genre de statistiques. Mais tout ça pèse, si vous voulez, aujourd'hui. Donc, dans les pistes, il faut s'adapter. Les gens ne veulent plus d'alcool. Eh bien, donnons-leur des alcools sans alcool. Vous voyez, c'est vraiment une tartufferie de dire ça. On est d'accord.
Le no-lo.
Hein. Le fameux no-lo. Et je dirais le no plus que le lo. Parce que les premières études qui ont été faites sur la... J'ai vraiment épluché toute la littérature qui a été faite, notamment en marketing, sur le low alcool. Lorsque vous enlevez de l'alcool à un consommateur lambda, finalement, vous lui enlevez quelque chose. Passer de 13 degrés à 9 degrés, quelque part, il boit toujours de l'alcool, donc il n'a pas la sensation de se faire du bien. Et il a la sensation qu'on lui enlève une caractéristique. Donc, son consentement à payer est moindre pour le low alcool. Ce sur quoi je veux travailler dans les mois qui viennent avec des partenaires à l'étranger, en France, etc., c'est justement le no-alcool. Parce que je crois que là, on achète une caractéristique supplémentaire dans un vin qui n'a pas d'alcool. On achète le fait qu'il n'ait pas d'alcool et ça, c'est vendeur. C'est ce qu'on constate dans la bière, notamment. C'est-à-dire qu'on est prêt à payer peut-être un petit peu plus cher de la bière sans alcool parce qu'elle n'a pas d'alcool. Vous voyez la subtilité ? Donc, ça tombe bien parce que faire du vin sans alcool, ça coûte plus cher. Et je pense que la marge que l'on peut mettre sur un vin sans alcool, nonobstant le fait que déjà ça coûte plus cher, serait encore supérieure. Donc, il y a, je pense, un marché et je me suis pas mal penché, parce que j'aime bien faire des comparaisons avec d'autres marchés, je me suis pas mal penché sur le marché du café. Finalement, dans le café, lorsque vous enlevez la caféine, vous avez totalement dénaturé le produit. Du café sans caféine, c'est plus du café. Du vin sans alcool, c'est plus du vin. Je l'entends très souvent, croyez-moi. Ok, le café sans café ou sans caféine, ce n'est plus du café. Part de marché, suivant les statistiques que j'ai pu récupérer, c'est entre 15 et 20% du marché mondial. Mais moi, je dis que le vin sans alcool, demain, peut représenter 15 à 20% du marché mondial. Et donc, c'est des parts de marché qu'on peut aller chercher. C'est des consommateurs qu'on peut aller recruter. Je vais parler vraiment en marketeurs. Alors là, l'OMS me détesterait s'ils entendaient ce discours. Mais c'est des gens qu'on peut amener, finalement, à la subtilité, avec beaucoup de modération, mais à la subtilité d'un vin avec de l'alcool aussi, parce qu'il portera toujours d'autres saveurs. Il sera toujours différent, pour certains meilleurs, pour d'autres simplement différents. Donc ça, c'est un marché à aller chercher. Et puis, il y a la modération. La modération, plutôt que de réduire le degré d'alcool, je crois que celui qui a envie de boire de l'alcool va en boire un petit peu moins, dans des quantités moindres. Lorsque je vois ces linéaires de supermarchés, ou chez les cavistes aussi d'ailleurs, ou en vente directe, vous avez des bouteilles en format 75 centilitres qui sont à 99,9% du temps privilégiées. Ça appartient au passé pour moi. Je vous le dis très directement, ça appartient au passé. Regardez le schéma de famille monoparentale, le papa ou la maman seul avec ses enfants qui veut malgré tout accompagner son repas d'un verre de vin. eh bien, il aura certainement une réticence à déboucher une bouteille de 75 centilitres parce que tout le monde n'a pas le bouchon qui vous garde. Et puis, au bout d'une semaine, un vin rouge, même avec ce bouchon, peut être un peu dénaturé, etc., etc. Et puis, il y a même parfois le geste social d'acheter « je suis seul, j'achète une bouteille de vin ». Il y a l'image que ça renvoie parce qu'on est aujourd'hui dans un discours de modération où l'alcool peut être montré du doigt. Donc, je pense qu'il faut faire une diversité de contenants. Elle existe dans la bière. Hein. Il faut aller des contenants de 15 centilitres jusqu'à 75 centilitres pour continuer à satisfaire les amateurs, bien évidemment, et puis des contenants prestigieux au-delà, bien sûr, mais ça, c'est vraiment dérisoire. Donc, il faut des contenants, et il faut des contenants qui soient aussi plus adaptés, peut-être, à une consommation plus féminine, également. Il faut des contenants qui répondent aussi aux attentes sociétales, que sont l'environnement, le recyclage, etc. Donc, je pense qu'on a un gros effort à faire sur la canette, typiquement. Ça fait des années que je dis la canette, c'est vraiment un point d'attention que vous devez avoir, parce que c'est consommer moins, et ça s'adapte à ça, et c'est quelque part être un petit peu plus environnemental, même s'il y a des études un petit peu contradictoires. La canette, c'est quand même quelque chose qu'on a négligé en France, parce qu'on a dit « le consommateur français n'est pas prêt pour la canette, il n'aime pas la canette ». Est-ce que vous en avez, je vous prends un témoin, Mathieu et César, est-ce que vous avez souvent vu dans les supermarchés de la canette de vin, chez les distributeurs, les cavistes, etc. Est-ce que vous en avez souvent vu ?
Non.
Non. Voilà.
Souvent, ce sont des curiosités.
Ce sont des curiosités. J'ai été aux États-Unis il y a peu de temps, j'en ai vu partout, et lorsque je regardais les canettes, elles me donnaient envie, plus que les bouteilles. Alors peut-être parce que c'était original, parce que j'y suis moins habitué, mais le design, l'habillage de la canette... me faisait vraiment plus envie. Mais mettons les consommateurs traditionnels face à des canettes et on verra bien. On verra bien. Tentons-le. Certains opérateurs l'ont tenté.
Oui,
oh,
au
non,
demeurant, ça,
pas.
Au demeurant ça se développe. Ça se développe.
Ça, se développe.
Ça part de loin, effectivement.
Vous avez vu les Rosés de Provence, peut-être, l'été dernier,
oui.
Qui en ont mis quelques éditions. Mais ça se market aussi. Les Rosés de Provence sont très bien faits dans des bacs à glace, près des plages, etc., etc. Ça a été bien marketé. C'est parti comme des petits pains. Donc je pense que c'est une histoire de marketing, là, encore une fois.
Eh bien, c'est une histoire de marketing. Il y a donc des pistes provocantes et des pistes pas provocantes pour s'en sortir. Merci Jean-Marie Cardeba.
Merci à vous.
Merci César.
Merci.
On termine sur la canette et le marché du café. On vous réinvitera, Jean-Marie Cardeba. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode des 4 saisons du vin. Merci à vous tous et à vous toutes qui êtes toujours plus nombreux à écouter nos podcasts. N'hésitez pas à nous envoyer des messages ou commentaires à m.herve@sudouest.fr. Retrouvez tous nos épisodes sur sudouest.fr. Et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous à Sudouest sur Deezer, Spotify, iTunes ou Google Podcast. D'ici là, portez-vous bien et rappelez-vous, le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous appréciez ce podcast, soutenez-le avec des étoiles, des posts sur les réseaux ou parlez-en autour de vous. Merci. À bientôt.